Salut, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Amiens. Nous serons ensemble le temps d'un Info Club Sandwich. Je suis en compagnie de Colline à la technique et de Romane. Salut à vous deux.
Salut.
Romane, on te retrouve à la fin de l'émission pour ta sélection d'actu, ce qu'il y a à faire, à voir pour ces prochains jours. Un petit avant-goût?
Oui, alors je vais vous parler des Erasmus Days, d'un stage de brassage amateur et des journées de l'accessibilité et de l'inclusion amiénoise.
Ouais, c'est très varié quoi, hein, finalement pour tout le monde. Alors le sujet du jour c'est Jules Verne, figure emblématique amiénoise s'il en est. Quelle est votre œuvre préférée à toutes les deux?
Je te laisse commencer, Romane.
Vas-y, Colline, je suis en train de réfléchir.
J'en ai discuté tout à l'heure avec notre invité du jour, dont je te laisserai faire la présentation tout à l'heure. Mais moi, c'est Le Tour du Monde en 80 jours, que j'ai lu quand j'étais au collège. Mm-hmm. Donc, ça remonte un petit peu maintenant. Et où je l'ai lu pendant une nuit, en fait. Je ne l'ai pas lâché tellement j'ai accroché,
ouais,
j'ai
adoré. Tu l'as dévoré. Il faut dire qu'il est passionnant. Honnêtement, on est très immergé tout de suite dedans. Et toi, Romane, t'as réfléchi?
Alors, moi, si je me souviens bien, il y avait une œuvre où il y avait un capitaine qui s'appelait Nemo.
Sans blague.
Et celle-ci, je sais que j'ai beaucoup aimé. Le titre, j'ai un doute, je crois que c'est 20 000 lieues sous les mers.
Bravo.
C'est ça. J'ai beaucoup aimé.
Vous avez regardé aussi des films, j'imagine, parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations cinématographiques, des feuilletons, des films. Non, ça vous marque pas, ça?
Si, si, le film avec Jackie Chan, voilà. Du Tour du Monde en 80 jours.
Ça, c'est plus récent, ça.
Et toi, c'est lequel, ton livre préféré de Jules Verne?
Moi, c'est 20 000 sous les mers. Définitivement.
Team Roman.
L'environnement, tout ça, ça me parle. Alors, donc, vous l'avez compris, le sujet, c'est Jules Verne, et plus particulièrement, ben, ça tombe bien pour toi, Colline, puisqu'on va parler du Tour du Monde en 80 jours avec Marie-Françoise Montaubin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de littérature française du 19e siècle à l'UPJV et présidente du Centre international Jules Verne. Donc, ça tombe bien. On en parle ensemble. Vous organisez les 17 et 18 octobre le colloque intitulé « Ce que le Tour du Monde en 80 jours a changé au monde ». C'est un colloque organisé par le Centre d'études des relations et des contacts linguistiques et littéraires, je reprends mon souffle, le Cercle de l'UPJV. Alors, c'est un roman qui a toujours stimulé les esprits, hein, qu'il s'agisse des cinéastes, comme je le disais, des aventuriers, des journalistes. Je pense notamment à Nellie Bly, la journaliste américaine pionnière du journalisme d'investigation, qui réalisera justement ce tour du monde, mais alors cette fois-ci en 72 jours, en 1890. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il inspire les voyageurs, puisque j'avais lu que deux octogénaires américaines se sont lancées sur les traces de Phileas Fogg en 2023. Donc c'est peut-être anecdotique, mais en tout cas, ça marque qu'effectivement, ça continue d'inspirer à travers le monde les aventurières et les aventuriers. Mais Marie-Françoise, comment une fiction publiée par Verne en 1872 aurait-elle eu le pouvoir de transformer le cours du monde?
Alors évidemment, le titre est tout à fait ambitieux. Il est aussi peut-être paradoxal. Dire que le Tour du Monde en 80 jours a changé le monde, c'est malgré tout étonnant. Je crois qu'il faut se rappeler, peut-être rappeler avant tout, que Phileas Fogg, le héros du Tour du Monde, n'est pas en réalité un voyageur, oui, et qu'il est encore moins un touriste. Mmh. Phileas Fogg, c'est quelqu'un qui parcourt une ligne. Le texte dit qu'il parcourt une circonférence et comme il reste sur la ligne, il ne s'intéresse pas, si je puis dire, à la surface. En réalité, il ne voit rien et plus encore, il refuse de voir. Mmh. Donc, il est très paradoxal que le Tour du Monde, dans ce contexte, ait pu changer les choses. Alors, comment est-ce que le Tour du Monde a changé la vision du monde? Eh bien, je crois que vous l'avez dit précisément dans votre introduction, le Tour du Monde a connu un succès phénoménal, notamment à l'étranger, où il a été traduit très vite, notamment aux États-Unis, et sur les traces de Phileas Fogg se sont engagés un certain nombre de voyages. Alors bien sûr, le plus connu, sans doute, c'est celui de Nellie Bly. Mmh. Il y en a un qui est strictement contemporain, qui est mené par une autre journaliste, américaine aussi, qui s'appelle Elizabeth Bisland. Et il y en aura plusieurs, quelques années après. Il y aura celui du français Gaston Stiegler en 1901. Il y a encore en 1936, par exemple, celui de Jean Cocteau, qui...
Moins connu, ça, pour le coup, j'ai découvert.
Et qui parcourt exactement le trajet de Phileas Fogg. Cela veut dire que le tour du monde engage en quelque sorte le monde dans une perspective de voyage et plus encore donne naissance à ce qu'on va appeler, après Jules Verne précisément, la tour du mondité, c'est-à-dire la volonté de faire le tour du monde. Et c'est tellement évident que ça vient de Jules Verne que les plus grands voyageurs, c'est tout à fait fascinant quand on y pense, viennent à Amiens rencontrer Jules Verne. Nelly Bly fait une halte à Amiens pour voir Jules Verne, alors même que le tour du monde de Fogg qu'elle reproduit ne s'arrête pas en France. Hein.
Surtout que lui, il avait, je crois qu'il lui avait lancé pour défi 79 jours.
Tout à fait, ouais. Et elle le fait plus vite. Mais elle vient quand même le voir à Amiens, et Gaston Stiegler, en 1901, vient à nouveau voir Verne à Amiens, alors que Verne est âgé, malade, et Verne va quand même aller à la gare rencontrer Gaston Stiegler. Donc, il y a cette dimension médiatique incontestable qui explique que le tour du monde en 80 jours ait pu changer le monde. Le tour du monde change le monde aussi parce que, à partir de la publication de ce roman, Verne est présenté très largement dans les médias comme un maître du monde. Je reprends là le titre d'un roman plus tardif de Jules Verne et beaucoup moins connu. Et j'en veux pour preuve notamment l'affiche que nous avons choisie pour le colloque. Alors je la mentionne parce que je l'aime beaucoup. c'est une caricature de Jules Verne, qui est une caricature de 1890, qui est due à Manuel Luc, dans laquelle on voit Jules Verne, c'est très étrange comme représentation, on le voit en dompteur, avec une grande plume à la main et tenant à ses pieds, ficelé, tenant en laisse le monde. Donc, on voit bien qu'il y a cette idée d'un rétrécissement de la Terre et d'un monde qui, désormais, après Jules Verne, est parfaitement maîtrisable. Et c'est en cela, je crois, qu'il change effectivement le monde et le cours du monde.
Alors, dans votre communiqué, vous avancez qu'il pose des questions aujourd'hui essentielles. Quelles sont-elles ?
Alors, le roman aborde de biais ou de front un certain nombre de questions très importantes. Alors, la première, la plus évidente, c'est bien sûr la question du progrès. Le tour du monde en 80 jours, c'est, on le sait, un roman de la vapeur. Avant d'être sensible à l'électricité dans 20 milieux sous les mers, Jules Verne s'intéresse beaucoup à la vapeur. Et le tour du monde en 80 jours, c'est le roman du train et c'est le roman du steamer. Donc, le train et les bateaux à vapeur qui permettent de maîtriser le monde.
Et d'aller plus vite.
Et d'aller beaucoup plus vite, de rétrécir la Terre, comme dit le roman. Alors, cette dimension, évidemment, elle a changé pour nous. Ça n'est plus la vapeur qui nous intéresse. Mais on voit certaines transpositions aujourd'hui qui montrent que cette question du progrès, de la rapidité, de la maîtrise du monde continue à exister. Je pense, par exemple, à l'œuvre de Gwenola Wagon, qu'on va présenter d'ailleurs le jeudi soir, qui s'inspire directement du tour du monde de Phileas Fogg, mais qui le réalise sur écran. Et en travaillant à partir de Google Earth. Donc, on voit comment cette question du progrès continue à se poser et de la place que tient l'homme dans le monde dès lors qu'il y a progrès. Donc, c'est, je crois, la première grande question. L'autre question que pose de manière massive le tour du monde en 80 jours, c'est la question du capitalisme. Phileas Fogg, c'est un homme qui a de l'argent et qui va s'engager dans une dépense absolument folle d'ailleurs pour faire ce tour du monde. Et c'est intéressant parce qu'avant Phileas Fogg, les voyageurs chez Verne sont toujours mus par des objectifs très précis, qui sont des objectifs de commerce ou des objectifs de conquête. Le voyage dans les voyages extraordinaires, c'est un voyage utile. Avec le tour du monde en 80 jours, c'est la dépense folle qui s'impose et ça pose cette question du rapport au capitalisme. Autre question majeure, je crois,
la colonisation.
Celle de la colonisation, puisque le monde que traverse Phileas Fogg, c'est en réalité l'Empire britannique. Il ne sort pas, alors il en sort un peu, il est dans des terres d'influence en tout cas britannique, même quand ça n'est pas l'Empire britannique, et ça pose la question du regard que porte un occidental en 1870 sur ces terres qu'on appelle à l'époque indigènes. Donc c'est une question bien sûr qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Et puis parmi ces questions d'actualité, j'en retiendrai peut-être deux autres encore qui je pense sont importantes aujourd'hui, c'est la question de la place des femmes. Alors, on a coutume de dire que la femme est un peu annexe dans l'œuvre de Jules Verne, c'est souvent vrai. Ici, Mrs. Aouda apparaît d'abord comme la jeune femme qu'il faut sauver,
en détresse.
Cela dit, elle adopte une posture quand même très moderne, puisqu'à la fin du roman, elle demande en mariage Phileas Fogg, qui n'aurait jamais pensé à cette possibilité. Donc, c'est un peu plus complexe peut-être. Et puis l'autre question qui reste comme un point d'interrogation pour moi quand même dans ce roman, c'est la question de l'environnement. Alors la question de l'environnement, elle est très souvent présente chez Verne. Mmh. Ici, je dirais qu'elle est présente en creux et de manière plutôt négative sans doute dans l'approche, puisque ce qui domine, c'est la volonté de couvrir la terre de rails et de chemins de fer, et que Verne ici ne se préoccupe pas du tout des conséquences environnementales que ça pourrait présenter.
Exact.
En revanche, quand on regarde les illustrations, qui font partie intégrante quand même des œuvres de Verne, on voit qu'elles accordent une très large part au paysage et à l'environnement.
Pour faire rêver aussi.
Voilà, tout à fait. Donc je pense que c'est un peu, c'est une position un peu ambiguë.
C'est un Instagrammeur, en fait, avant l'heure.
Ah, tout à fait. Je crois, tout à fait, oui.
Sur la question de la globalisation, et qu'est-ce que vous entendez par la perte de singularité ?
La perte de singularité, elle est soulevée dans le roman lorsque Passepartout, puisque c'est généralement Passepartout qui formule ce type de remarques, Passepartout constate que, où qu'il soit dans son voyage, il retrouve toujours l'Angleterre.
Ouais.
C'est ça, c'est cette idée d'un empire britannique, d'une globalisation qui gomme en réalité ce qu'on attendrait d'un récit de voyage, c'est-à-dire l'exotisme. Où que passent les voyageurs, eh bien, ils vont toujours rencontrer des rues londoniennes, une organisation britannique, voilà. Et les lois, évidemment, les lois britanniques aussi.
Oui, bien sûr. Donc, pour aborder toutes ces métamorphoses du monde, liées bien évidemment à l'œuvre de Jules Verne, vous êtes allé les aborder d'un point de vue littéraire, bien sûr, mais aussi historique, géopolitique et ou encore économique, d'ailleurs.
Tout à fait. Alors, ces différents axes sont présents et d'ailleurs, les chercheurs qui participent au colloque viennent...
Il y a une quinzaine.
Une quinzaine viennent d'horizons très variés puisqu'il y a des littéraires, des géographes, des historiens, et que tous ces collègues vont se rencontrer sur un même texte. Avec quatre grands axes en réalité qui se dégagent. Le premier consiste, et ça sera le début du colloque, consiste à montrer comment le roman de Verne a développé, a contribué à développer le tourisme, comment des globe-trotteurs dans les années 1870-1880 s'inscrivent explicitement, parce que c'est ça qui est intéressant, dans les pages de Verne. On a des très nombreux récits de voyage dans lesquels on voit des voyageurs, qu'ils soient français, anglais, américains, italiens, noter quelque part que Phileas Fogg a fait ça, ou qu'il voyage comme Fogg. Donc il y a les imitateurs, si je puis dire, ou les disciples de Verne. Et ça constitue un premier ensemble. Un deuxième ensemble va s'attacher davantage à tout ce qui peut concerner les transpositions du tour du monde et notamment l'intermédialité. On va parler évidemment du cinéma et notamment du cinéma grand public américain. Des blockbusters, premier blockbuster, puisque Verne a nourri les blockbusters américains.
Surtout qu'il y en a toujours, hein.
Et il y
en a toujours d'actualité, toujours de nouveaux.
Il y en a des nouveaux chaque année, et il y a eu un tour du monde très récent avec David Tennant, il n'y a pas très longtemps, en 2020-2021. Donc le deuxième grand bloc porte sur les transpositions. Le troisième est en réalité très différent parce qu'il va s'intéresser aux traductions du tour du monde et à la manière dont ces traductions jouent comme révélateurs politiques. Et nous aurons notamment des communications dont nous attendons beaucoup sur le tour du monde en Chine. La réception du tour du monde en Chine est mal connue, mais il apparaît qu'elle a accompagné pendant plusieurs années une réflexion sur ce qu'était le progrès et ce que devait être le progrès. Et puis nous aurons une autre communication sur la réception du tour du monde en Iran, qui cette fois-ci n'est plus d'ordre économique comme comme celle qui va porter sur la Chine, mais qui est d'ordre plus strictement politique, puisque le collègue va montrer comment les différents régimes iraniens, et notamment le régime des Mollahs d'un côté et la frange libérale de l'autre, se disputent politiquement autour de la signification du tour du monde. Donc on aura tout un volet très politique autour de ce tour du monde. Et puis le dernier volet s'intéressera plus précisément à la question de la mondialisation et de la globalisation avec et après le tour du monde.
S'il y avait un temps fort, quel serait-il ? Lequel vous, quel temps fort vous nous recommanderiez pendant ce qu'on, parce que c'est deux jours de colloque.
Oui. Alors, je ne vais évidemment pas vous dire qu'il y aura des communications moins intéressantes que d'autres. Je ne peux pas savoir quels seront les temps forts. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que c'est quand même un colloque qui est ouvert au public, comme le sont toujours nos colloques, et que, à côté des communications scientifiques, il propose un accompagnement avec le jeudi 17 à 16h30, la projection du Globodrome de Gwenola Wagon, avec à 18h30 un concert du chœur Crescendo qui propose une sorte de tour du monde musical. Et dans le même esprit, là, en revanche, ça n'est pas ouvert au public malheureusement, mais pour les conférenciers, et c'est important tout de même, nous proposons une visite, bien sûr, de la maison de Jules Verne. La plupart venant de l'étranger, c'est très international comme colloque, ne la connaissent pas. Et également, nous avons la chance de pouvoir proposer une présentation des collections du fonds Piero Gondolo della Riva, qui est conservé à la bibliothèque municipale.
Alors, rien à voir au niveau du colloque, mais une question plus personnelle. C'est votre œuvre préférée de Jules Verne ?
Le tour du monde en 80 jours, non.
Ah.
Non. Je crois que mon œuvre préférée de Jules Verne reste Michel Strogoff.
Oui.
Parce que je l'ai lu jeune, parce que j'ai été absolument fascinée par les grands espaces, que ça m'a fait rêver sur les grands espaces, et puis sans doute aussi parce que c'était un vrai roman, comme dirait Albert Thibaudet. Thibaudet disait le roman en France, c'est où il y a de l'amour, et c'est un des rares romans de Verne où il y a effectivement une histoire d'amour du début jusqu'à la fin, et je crois que c'est quand même Michel Strogoff.
Bah, merci beaucoup Marie-Françoise d'être venue.
Merci
au micro
à vous
de Radio Campus Amiens. Donc je rappelle que ce colloque est intitulé « Ce que le tour du monde en 80 jours a changé au monde ». Les dates, c'est les 17 et 18 octobre prochain à l'auditorium du musée de Picardie. Donc écoutez, ça vous a plu ce petit colloque là, ça vous donne envie ?
C'était très intéressant. Ouais. Ça donne envie parce que ça évoque l'idée de voyage.
Oui, c'est vrai.
Il faut quand même remercier le musée de Picardie, puisque ça nous donne aussi la possibilité d'avoir un colloque dans une très belle salle. L'auditorium du musée est une très belle salle, très agréable. Donc on peut y venir et s'y installer avec plaisir, je crois.
Ça sera le mot de la fin. Ben, petite interlude musicale maintenant, à présent, avec un titre que tu as choisi, Romane.
Alors j'ai choisi See Me Fall de Ro-Ransom, qui a été remixé ici par Y2K Remix.
Yeah.
Voilà.
They gon' wanna see me fall, yeah. Talking dollar with my goal, yeah. We gon' run around the goal, yeah. You gon' want that shit from home, yeah. Kawasaki on the road, yeah.
Yeah. Nigga wanna see me fall, Stephen Curry how I ball. Gucci garments and a white three on my body. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they run my hometown, I don't know how. I'm the prince here, man. All we talk about is checks.
Cash, rack, bills, math, stacks. Ew, I'm in.
Love.
Focus on the door. I don't really give a damn about what they talking about. The rain door, man. All they girls are doing low. Winning, we just kept it low. Supermodels in the band, oh. Is there anywhere that we can't go, man?
Need you put her to the club, yeah. You know I don't give a fuck, yeah.
Throwing money at the night shift out in BK on a weekday, man. I got friends moving packs. Judge a nigga tryna stack. Gotta tell me what she into. I'm a freak girl, I could teach you. Oh.
You my own Rashida Jones.
Damn, I'm fly. Lamb,
Porsche.
Drive, sewing. Love, with my squad.
Focus on the dough. I don't really give a damn about what they talking about. I'm ranked up, man. All these girls are doing low. Winning, we just kept it low. Supermodels in the bando. Is it anywhere that we can't go? Man, they gon' wanna see me fall.
I got ice in my drink and it stinks. When I pull up, shorty no bank when she see one. I spent some cash with this feeling. I had no feelings this weekend. Support on myself, I feel weak. Money the root of all evil. I get my own money with people I evil could need. When I push my own limits and leaders, I get it for cheaper. Cause I am the blood to my people. I see faces. Yo, ghost, I'm faded. When I'm, am I?
Nigga wanna see me fall. I even focus on the door. I don't really give a damn about what they talking about. Supermodels in the bando. Is it anywhere that we can't go?
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens 87.7 et vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actu locale et associative. Romane, tu nous as sélectionné une série d'actu. On commence avec les Erasmus Days.
Oui, alors les Erasmus Days, pardon. De cette année se déroule jusqu'au 19 octobre. Alors, cette 8e édition met l'accent sur les valeurs du sport en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pendant une semaine, des établissements d'éducation, des élèves, des familles et des élus mettent en lumière leurs projets européens développés via le programme Erasmus+. Ce programme soutient la mobilité internationale et la coopération entre les pays européens dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse, de la formation et du sport. Et à Amiens, quelques établissements participent comme Michelis, l'ESC ou encore Sainte-Famille. Et nous, on vous met toutes les informations concernant l'événement dans l'article d'aujourd'hui.
Un stage pour devenir brasseur amateur.
Effectivement, un stage de brassage amateur est organisé par la brasserie de la Somme dans leurs locaux à Domard en Ponthieux. Le principe est simple, vous choisissez votre recette de bière que vous préparez de A à Z et une fois prête, vous récupérez votre bière, de quoi épater les copains pour votre prochaine soirée. Et si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes intéressé, c'est le samedi 19 octobre de 8h30 à 17h. Alors il faudra récupérer votre bon de réservation sur leur site dans la catégorie shop puis goodies.
Non, c'était pour faire parler Colline. Après, j'ai une petite question à lui poser là-dessus.
Et moi, j'allais rajouter quelque chose après.
Donc vas-y, on t'a coupé, vas-y.
Ok. Mais c'est fini pour le stage de brassage amateur, donc
c'est parfait.
Et je tiens à dire que l'alcool est à consommer avec modération.
Bravo. Moi, j'allais te dire, mais est-ce que tu vas t'inscrire au stage surtout?
Alors certes, j'étais à Amiens, mais la pression samedi, mais non, je n'ai pas le temps malheureusement.
Ah, quel dommage.
Et toi, Steph, peut-être
Bah non, j'ai déjà fait ça, donc c'est pas mal, hein, c'est sympa. Enfin, les journées de l'accessibilité et de l'inclusion.
Oui, alors est-ce que vous avez déjà entendu parler des inclusives?
Pas du tout,
non.
Pas
non,
du tout,
j'avoue.
Parce que ce sont des journées qui sont dédiées à l'accessibilité et à l'inclusion. Elles sont organisées par la ville d'Amiens. Et cette année, elles sont dédiées à l'innovation autour du handicap. Alors on a des conférences, des ateliers et des stands qui vont vous permettre de découvrir les nouveaux outils développés pour favoriser l'inclusion. Alors par exemple, on a des packs vibrants qui sont combinés à l'IA et qui permettent aux sourds et aux malentendants de ressentir la musique. Et on vous informe aussi sur les aides financières pour se les procurer. Donc vous retrouverez le programme complet sur le site www.amiens.fr/lesinclusives. Et ça se passe les 16 et 17 octobre de 10h à 18h à l'espace de Wailly d'Amiens. L'entrée, elle est libre pour tous, alors que vous soyez directement concerné par le handicap ou non, sachant que, rappelons-le, personne n'est à l'abri, qu'il est toujours bon de savoir ce à quoi on a accès.
Tout à fait. Merci beaucoup, Romane, pour toutes ces infos. On va se quitter en musique avec la pop éthérée de Cigarettes After Sex et leur titre « Nothing's Gonna Hurt You, Baby ».
À bientôt.
Bientôt.
Whispered something in your ear, it was a perverted thing to say. But I said it anyway. Made you smile and look away. Nothing's gonna hurt you, babe. As long as you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna hurt you, baby. Nothing's gonna take you from my side. When I dance in my living room, to the silly 90s R&B, when we have a drink of three. Always end in a hazy show scene. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna take you from me.